Radio Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, il est 18h pile à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Ouverture ce mardi à Bangui du forum de renforcement de capacité de médias en ligne sur la prévention des conflits liés au discours de haine en Afrique centrale. Les participants devraient s'engager officiellement à respecter les règles d'éthique et de déontologie encadrant leur publication. 8 morts, 9 personnes grièvement blessées et d'importants dégâts matériels. Bilan de l'éboulement survenu lundi soir dans la commune de Kadutu à Bukavu. C'était précisément sur la colline en diagonale du lycée Wima. Notre invité, c'est le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, parle des mesures prises pour prévenir le drame survenu mardi soir dans la ville. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Ouverture ce mardi à Bangui, en République centrafricaine, du Forum régional de sensibilisation et de renforcement de capacité des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine en Afrique centrale. Objectif visé, outiller les responsables des médias en ligne et des blogueurs des 11 pays de la sous-région sur les outils onusiens et les dispositifs légaux pour juguler ces discours et leur permettre ainsi de s'engager à respecter les règles d'éthique et de déontologie encadrant leur publication en ligne. Pour en parler, retrouvons à Bangui Pamela Lubaki.
Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce forum. D'abord, le mot de circonstance prononcé au nom de toutes les entités des Nations Unies présentes à ces travaux par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la RCM, Madame Denise Brown, qui a salué l'implication du gouvernement centrafricain à ses assises organisées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancé le 18 juin 2019 par le secrétaire général Antonio Guterres. Selon elle, les discours de haine est un ennemi de la population car ils fragilisent la paix et le développement. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Communication et des Médias centrafricains, Serge Ghislain Djori, a fait savoir que le gouvernement et la communauté médiatique centrafricaine sont heureux d'accueillir ce forum dans ce pays post-conflit où les discours de haine font rage au sein des communautés malgré les efforts consentis par les autorités, notamment par la dotation d'un plan national de lutte contre les discours de haine. Le ministre de la Communication et des Médias centrafricains a en outre émis le vœu de l'organisation d'une rencontre à l'intention des ministres de communication des pays de la sous-région de l'Afrique centrale sur cette même thématique.
Notez que ces assises qui se termineront vendredi prochain sont organisées à Bangui par le bureau conjoint de l'ONU pour l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale en collaboration avec le gouvernement centrafricain, la mission multidimensionnelle intégrée de Nations Unies en RCA, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la RDC, la MONUSCO et le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Et puis, deux leaders de la force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI et un expert ont quitté Bunia ce mardi pour Nairobi, dans la capitale kényane. Ils doivent participer aux consultations avec le gouvernement congolais sur le retour de la paix dans l'est de la RDC. Par contre, les miliciens de la CODECO réclament d'être notifiés officiellement par le président Félix Tshisekedi avant de faire le voyage de Nairobi. Martial Kizabiamungu nous appelle de l'aéroport de Bunia.
Les représentants de la milice FRPI à ces assises sont des colonels autoproclamés Mbife Mbafele, Mouno Mounobi et Serge Lossabingi comme experts pour avoir participé plusieurs fois à des négociations entre cette milice et le gouvernement congolais. La MONUSCO a apporté l'appui logistique pour les acheminer à Goma, d'où ils vont poursuivre le voyage jusqu'à Nairobi au Kenya. Ils sont accompagnés d'un officier de l'Agence nationale du renseignement ANER jusqu'à Goma. Selon les autorités provinciales qui facilite ces déplacements, des membres des autres groupes armés actifs dont la CODECO et la FPIC sont toujours entendus à Bunia pour rejoindre leurs collègues à Nairobi. Cependant, selon les dernières informations, la CODECO émet des réserves et exige au préalable une lettre officielle du chef de l'État qui les invite à ces consultations. Même situation pour les groupes armés FPIC. Pour rappel, la FRPI avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais à Guéti. Depuis l'aéroport de Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au nord Kivu voisin, les acteurs de la société civile au sud du territoire de Lubero dénoncent la présence des Maïmaï Ngolenge dans plusieurs entités administratives où ils commettent des exactions contre la population. Depuis plus d'une semaine, en effet, ces miliciens sont à Kasoso et à Keloua où ils annoncent la construction de leur camp. La société civile appelle les forces de sécurité à mettre fin à cette situation. À Butembo, la correspondance de Grassa Mzati.
Ces miliciens Maïmaï dénommés Ngolenge, chassés du parc de Virunga par les FRDC en octobre dernier, se retrouvent éparpillés dans plusieurs entités du sud de Lubero. Selon les acteurs de la société civile dans la région, ces derniers jours, une vingtaine d'entre eux munis de fusils circulent dans les villages Kasoso et Kiaouloa en groupement Itala dans la chefferie de Batangi. Ici, ils sensibilisent la population à la construction imminente de leur camp, ce qui crée la psychose au sein de la population, rapporte notre source. Dans d'autres entités de la région où ils se sont déjà installés, ces Maïmaï ont instauré une taxe mensuelle que doit payer chaque agriculteur avant d'accéder à son champ. Les caféiculteurs sont soumis à une taxe de 20 000 francs congolais et ceux qui font le manioc, 10 000 francs congolais. Contacté, l'administrateur du territoire de Lubero qui dit être informé de la situation appelle ses miliciens au bon sens car toute l'attention est braquée sur Nairobi au Kenya où se déroulent les consultations entre les autorités et les groupes armés. Toutefois, le colonel Alain Kiwewa affirme avoir pris des dispositions pour mettre fin à l'activisme de ses miliciens. Butembo, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, 8 morts, 9 personnes grièvement blessées et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan de l'éboulement survenu lundi soir dans la commune de Kadutu à Bukavu. Le maire de la ville affirme que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels corps qui seraient coincés dans les décombres. Mais chaque biloubi est au micro de Sintabashi Zinabizana.
L'urgence en ce moment, puisqu'en fait, on suspecte qu'il y aurait d'autres corps sous les décombres. On est en train de fouiller et de dégager les décombres, ce qui obstrue le passage, disons, enterrer évidemment les morts, assister les familles sinistrées, et cette assistance doit être holistique. Les causes, c'est que, d'abord, c'est un site impropre, c'est une colline de plus de 70% de pente, et le sol n'est pas ferme. C'est un sol qui ressemble à un sol déramblé. Il y a ça d'abord. Ensuite, il y a une mauvaise construction. On a très mal construit. On construit des maisons en étage sur un sol qui n'est pas ferme. Mais il faut aussi reconnaître que c'est là où passe la fissure qui a fait écrouler une paroisse des sœurs religieuses à côté du lycée Wima. Et donc, c'est une ligne où il y a une fissure déjà à cause des mouvements tectoniques. On accuse les autorités, mais très souvent, ces familles n'ont pas des titres fonciers.
Autre nouvelle sur Radio Kapi ce soir, les commerçants de l'espace Grand Kasaï, importateurs de poissons, demandent à la SNCC de transporter leurs marchandises qui traînent dans ces entrepôts depuis plusieurs mois. Ils redoutent que ces produits périssables ne s'égâtent. On écoute l'un d'eux, Athanase Kabessa Ngindou, s'est confié à Jean Gandou.
Il y a 6 mois à peu près, les marchandises périssables sont au dépôt de la SNCC. Les marchandises sont payées cash. Nous avons des poissons salés, poissons fumés, poissons séchés. Nous risquons de tout perdre. Raison pour laquelle nous sommes venus nous plaindre pour que la société SNCC nous aide à transporter ces marchandises vers le Grand Kasaï. Sinon, nous risquons de perdre les tout. Le jour que le PDG était venu visiter les dépôts, il a même trouvé tous les dépôts pleins. Il sortait des dépôts. Et nous lui avons lancé les cris par-ci, par-là. Il nous a dit, attendez, je m'occupais d'abord des ciments pour les travaux qui se font au Grand Kasaï et je vais arrêter, je vais commencer à vous servir. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines que nous ne sommes pas servis. Nous n'avons pas même des échos où sont des wagons pour charger ces marchandises.
J'ajoute que la direction générale de la SNCC appelle ses commerçants à prendre leur mal à patience car il est prévu que d'ici la fin de la semaine, la SNCC va transporter ses marchandises. L'actualité, c'est aussi la poursuite ce mardi à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa du débat général sur la loi électorale. Hier, lundi, les députés nationaux ont proposé la suppression du seuil de représentativité sur l'interdiction de désigner un membre de la famille pour la suppléance. Les députés nationaux veulent se choisir eux-mêmes leurs suppléants car il s'agit d'une question de confiance. Ils plaident aussi pour la suppression de l'élection des gouverneurs au second degré afin qu'il soit directement élu par la population. Des précisions avec l'élu de Mambasa, Emmanuel Lekou, s'est confié à Michel Kifindangoy.
Il y a eu beaucoup de controverses autour de la machine à voter. Pour d'autres, c'est une machine à voler, pour d'autres, une machine à tricher. Alors, comme la question est revenue sur la table et que nous allons à 2023 élections, j'ai voulu que soit précisé à l'opinion l'aspect de dire nous allons aller dans quel format de vote. Si les bulletins sont là, qu'on adopte un principe. Soit on prend les bulletins, on vote par bulletin, soit on continue par les machines à voter. Donc, nous devons lever nos options pour ne pas laisser l'ambiguïté dans l'opinion. Puis, de deux aussi, il y a un problème de la cartographie électorale et la cartographie administrative. Les limites administratives ont toujours existé. Mais quelque part, dans d'autres coins, ça ne se marie pas avec la cartographie électorale. Ce qui pose maintenant un conflit entre communautés. Et là, c'est comme si la commission électorale devenait la maison géographique pour délimiter les cartes administratives. Et ce qui n'était pas bon pour moi, il fallait qu'on puisse corriger ça à temps pour ne pas laisser les conflits dans les milieux parce que nous sommes tenus à vivre en symbiose.
Notez que Radio Okapi débute lundi prochain une série de reportages pédagogiques pour aider ses nombreux auditeurs à bien cerner les enjeux autour de la loi électorale sous examen. Allons maintenant dans la province du Kwilu où la communauté de jeunes leaders dénonce le dysfonctionnement de l'Assemblée provinciale. Dans une déclaration faite hier après-midi, cette structure demande aux députés provinciaux de regagner le chef-lieu de la province. En réaction, le président de l'organe délibérant Serge Makongo assure que les députés reprendront les plénières dès mercredi. À Bandunduville, Irène Mboma.
Dans cette déclaration dénonçant le dysfonctionnement total au sein de l'Assemblée provinciale du Kwilu, la communauté des jeunes leaders, CGL, fustige la non-convocation des plénières depuis la rentrée parlementaire en cours après les obsèques des trois députés décédés. Jean-Prince Mbouyi est le communicateur de ces mouvements citoyens.
Nous constatons l'absence totale des plénières non justifiées et les refus intentionnels du bureau Makongo de ne pas vouloir convoquer les plénières pendant que la province souffre des manques de contrôle parlementaire dans nos services publics et locaux, ainsi que des édits. La CGL demande à tous les élus provinciaux du Kwilu de regagner leur hémicycle dans un délai raisonnable. Au cas contraire, nous solliciterons au président de la République d'appliquer l'article 197, alinéa 7 de la Constitution de notre pays.
Pour sa part, Serge Makongo, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, qui reconnaît ses retards causés par les décès de leurs collègues, indique ce qui suit.
L'ultimatum a été donné pour tout député de rentrer déjà à Bandundu dès mercredi. Je vous confirme que d'ici mercredi, les députés seront tous à Bandunduville. Nous allons commencer avec les travaux.
La CGL condamne également les comportements des élus provinciaux du Kwilu qui, à chaque session, ont l'habitude de sécher les plénières pour des raisons politiques. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Lomami, plus de 700 personnes qui avaient fui récemment les conflits fonciers de pouvoir coutumier à Kaloubi, dans les territoires de Miabi, au Kassai-Oriental, se sont réfugiés à Benankuna, dans les secteurs de Kamiji. L'administrateur du territoire affirme que ces déplacés vivent ces jours-ci dans des conditions extrêmement difficiles. Il demande par conséquent aux chefs de secteur de les sensibiliser à rentrer chez eux pour y mener des activités champêtres. Roger Ngoï Kadile a été joint par Esther Ndalafina.
Il y a un groupe de gens qui est venu du village de Kaloubi dans le territoire de Niabi, où il y a eu un conflit de pouvoir. Dans ce désordre-là, il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Et les gens ont fui leur village, chez nous ici dans le territoire de Kamiji, justement dans le groupement de Benankuna, et c'est là qu'ils sont. Selon le chef de groupement, il avait évalué à 700 personnes qui sont dispersées dans les différents villages, par le fait que le calme est déjà revenu dans les villages conflictuels, parce que tous les services de sécurité du territoire de Niadi sont là, ils ont rétabli la paix. Alors nous sommes en train de parler aussi avec les groupes de toute cette population-là, s'ils sont retournés chez eux parce que c'est là qu'ils ont différentes activités, des empreintes, de l'élevage, tout ça, et c'est ça leur lieu habituel d'habitation. Alors, nous préférons qu'ils rentrent au lieu de venir errer ici, là où ils n'ont pas d'activité, là où ils sont en train de passer peut-être nuit à la belle étoile, ce qui n'est pas préférable.
Actualité internationale.
Une centaine de terroristes neutralisés, trois bases détruites, de l'armement et de munitions et des véhicules saisis, c'est le bilan d'une opération militaire conjointe qui a été menée ce mardi matin par les états-majors burkinabés et nigériens. Au Bénin, précisément, une nouvelle attaque dans le nord du pays a coûté la vie tôt ce matin à un policier et fait plusieurs blessés graves. Cette attaque visait le commissariat de Monseil, un arrondissement de la commune de Karimama, au nord-est du Bénin, proche de la frontière avec le Niger. Et puis, à 62e jour de l'invasion russe en Ukraine, trois explosions et une attaque terroriste ont été enregistrées ce matin dans la région séparatiste de Moldavie, ce qui fait craindre l'extension du conflit russo-ukrainien à la Moldavie voisine.
L'invité.
Notre invité, c'est le maire de la ville de Bukavu au Sud Kivu, Meshak Biloubi, parle de l'éboulement qui a coûté la vie à 8 personnes hier soir dans la commune de Kadutu. Il parle des mesures qui ont été prises pour éviter pareil drame à l'avenir. Il s'entretient avec Sitabashi Zinabizana.
Monsieur le maire, bonjour.
Oui, bonjour madame journaliste.
Énième éboulement de terre mortel dans la ville de Bukavu. Quelle est l'urgence en ce moment?
L'urgence en ce moment, puisqu'en fait, on suspecte qu'il y aurait d'autres corps sous les décombres. On est en train de fouiller et de dégager les décombres. On est en train d'enlever les décombres, de dégager ce qui obstrue le passage. Disons, enterrer évidemment les morts, assister les familles sinistrées. Et cette assistance doit être holistique. C'est une famille qui a perdu à manger, qui a perdu l'abri, qui a perdu certains membres de famille, et donc dont certains sont internés et donc blessés. Donc il y a l'assistance médicale, l'assistance en vivres, l'assistance en abri, mais aussi l'assistance psychosociale et réconfort moral.
Vous nous aviez dit que très tôt ce matin, déjà aux alentours de 5h du matin, vous étiez sur place. Alors quelles sont les premières informations que l'on peut avoir sur les causes de cet éboulement?
Sur les causes de cet éboulement, vous savez que c'est la colline en face du lycée Wima, c'est une colline impropre à la construction. À son temps déjà, Son Excellence Monsieur le gouverneur Tshishambo avait interdit la construction. Il a chassé les gens là-bas. Il a même fait emprisonner certaines personnes qui n'ont pas obtempéré à sa position. Mais comme vous le savez, dans les sites impropres, on construit la nuit, on insiste, on y revient, et l'autorité parfois pense qu'il est en train de violer les droits des familles. Et donc, les causes, c'est que, d'abord, c'est un site impropre, c'est une colline de plus de 70% de pente, et le sol n'est pas ferme. C'est un sol qui ressemble à un sol de remblé. Et donc, il y a ça d'abord. Ensuite, il y a une mauvaise construction. On a très mal construit. On construit des maisons en étage sur un sol qui n'est pas ferme. Mais il faut aussi reconnaître que c'est là où passe la fissure qui a fait écrouler une paroisse des sœurs religieuses à côté du lycée Wima. Et donc, c'est une ligne où il y a une fissure déjà à cause des mouvements tectoniques.
Et pourquoi aujourd'hui l'autorité a du mal à faire respecter ses décisions? Vous aviez dit vous-même que déjà en son temps, le gouverneur Tshishambo avait déjà pris des mesures pour mettre fin à ces constructions sur ces sites-là. Mais pourquoi l'autorité aujourd'hui a du mal à faire respecter ses propres décisions?
Nous faisons face à une catégorie de personnes inciviques et même, je dirais, indisciplinées. Puisqu'en fait, il n'y a pas que Son Excellence Tshishambo, même Son Excellence Théo Ngwabidji Kassi. Quand il y a eu cassure d'un tuyau de la régie des eaux, c'était déjà prévisible que ces familles étaient en danger. Et il a interdit, il a demandé à ces familles d'évacuer. Mais ces familles n'ont pas obtempéré. Vous le chassez la journée, la nuit, ils reviennent. Vous le chassez la journée, la nuit, ils reviennent.
Aujourd'hui, peut-on s'attendre alors à des mesures draconiennes de la part soit de l'autorité urbaine, l'autorité provinciale, pour mettre fin à cela?
Ces mesures sont envisagées. Déjà ce matin, avec la police, on a dit qu'on sera obligé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à chasser les gens de force. Puisque si vous arrivez dans cet endroit-là, dans ces lieux, vous allez voir qu'il y a des maisons en planches qui sont perchées comme ça, et où les gens nous regardaient, et ils sont au-dessus du lieu des sinistres, ils sont aussi exposés, on les a sensibilisés, mais en vain. Et je pense que c'est la mesure qu'il faut prendre de chasser les gens par force, et au besoin, démolir ces maisons.
Et faire en sorte que les gens ne reconstruisent plus.
En principe, oui. Mais comme ils construisent la nuit, c'est ça le problème de tous les sites impropres. On accuse les autorités, mais très souvent, ces familles n'ont pas de titres, n'ont pas de documents, de titres fonciers.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi, parlait de l'éboulement qui a coûté la vie à 8 personnes et fait 9 personnes grièvement blessées dans la commune de Kadutu en face du lycée Wima. Il s'entretenait à Bukavu avec Sinta Bachizina Bizana. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Alain Rungumushige qui m'a accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.